a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Les États-Unis commémorent cette semaine le 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King. Le 4 avril 1968, ce pasteur baptiste noir de 39 ans, figure de proue du mouvement en faveur des Noirs américains, est assassiné à Memphis, dans le Tennessee. Retour ce soir sur son héritage. 50 ans après sa mort, qu'est-il advenu de son rêve ? Il y a eu beaucoup de progrès, mais les inégalités raciales persistent. Comment l'expliquer, pardon ? Nous en discutons dans ce numéro de l'Amérique et vous. Pour participer en direct, appelez le 001 202 205 26 33. Et pour les auditeurs qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. 50 ans après, que reste-t-il du combat de Martin Luther King ? Pour en débattre ce soir, notre invitée, c'est Marilyn Sefocle. Vous êtes professeure ici à Washington, à Howard University, institution qui a joué un rôle important dans la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis. Alors merci d'être des nôtres ce soir.
Merci de m'avoir invité. En effet, Howard University a produit justement ces professeurs de droit qui ont participé à toutes les négociations pour l'obtention des droits des Africains-Américains.
Ouais. Alors, Martin Luther King, hein, décédé donc il y a un demi-siècle. J'aimerais qu'on parle un petit peu de cette commémoration et voir ce que ça représente pour vous. À l'aune du contexte d'aujourd'hui et des tensions qui existent, hein, que faut-il retenir de Martin Luther King, Marilyn?
Alors très souvent, quand on parle de Martin Luther King, on parle souvent du discours intitulé « I have a dream ». Toutefois, Martin Luther King n'est pas limité à « I have a dream ». Il avait en effet un rêve pour l'Amérique, mais ce rêve s'étendait bien au-delà des tensions raciales qui existaient à l'époque. Il voulait une Amérique où il y a beaucoup plus d'égalité sociale, d'égalité non seulement au niveau des races, mais au niveau des différentes couches de la population.
Mmh. Et en 2018, hein, qu'est-ce qui résonne quand vous regardez l'actualité avec son combat ?
Alors que quand on arrive en 2018, le combat, on constate que le combat de Martin Luther King a donné des résultats vraiment très probants, puisque donc le droit de vote, évidemment, le droit, tous les droits civiques des Noirs américains ont été restitués, je dis bien restitués parce qu'ils avaient déjà été obtenus juste après la guerre de sécession. Toutefois, il y a eu, après la période de reconstruction, il y a eu, si vous voulez, une régression. Puisque les sudistes, se rendant compte qu'ils perdaient énormément au niveau économique après l'obtention des droits des Noirs, à l'époque, il faut se rappeler que dans les années 1870, les hommes noirs avaient le droit de voter. Les femmes noires comme blanches n'avaient pas encore le droit de vote, mais les hommes noirs avaient le droit de voter et les hommes noirs avaient tout de suite pris leurs responsabilités. Ils avaient été d'emblée admis dans les assemblées, ils étaient élus, mais ils étaient égaux. Ils étaient les élus et les électeurs également. Et comme ils constituaient une partie importante de la population, surtout dans le Sud, eh bien, ils étaient fortement représentés. Et ça a eu, comme on dirait en anglais, un backlash, c'est-à-dire une réaction virulente, très forte, et de la part des sudistes blancs. Et ils ont tout de suite, sous le président Rutherford Hayes, ils ont commencé à essayer d'éroder tous ces droits que les Noirs américains avaient obtenus.
Alors Martin Luther King, hein, bien sûr, n'est pas le seul à s'être battu pour le droit des Noirs aux États-Unis. Qu'avait-il de particulier par rapport aux autres ?
Alors par rapport aux autres, il avait ce charisme. Il avait aussi une, non seulement le charisme, mais il avait aussi, c'était un très grand orateur.
Oui.
Et c'était quelqu'un qui pouvait vraiment drainer les foules. Et il avait une espèce de stature qui était, qui dépassait celle des autres. Donc il n'était pas simplement, il était révérend, pasteur, mais son aura allait bien au-delà de sa congrégation.
Mmh. Alors, on va prendre...
J'ai eu l'occasion, il y avait aussi, je tiens à le dire, à ses côtés, une épouse exemplaire.
Oui.
En la personne de Madame Coretta King, dont j'ai fait la connaissance. D'ailleurs, j'ai une nièce, justement, qui porte son prénom, et avant d'ailleurs la naissance de ma nièce, j'avais promis à madame, ma sœur et moi, la fille de ma nièce, la fille de ma sœur et moi, nous avions promis à madame Martin Luther King que dans la famille, il y aura une Coretta. C'était une femme d'une grande stature elle-même. C'était une femme qui comprenait, qui était proche du public, proche du peuple américain, et qui avait compris aussi le sort qui pourrait être réservé à son mari. Et son mari et elle discutaient très fréquemment du possible assassinat de son mari. Parce que c'était une famille qui était, comme vous le savez, terrorisée au quotidien par les services secrets.
Alors, on va prendre un auditeur et nous avons au bout du fil Guillaume B. Valentin. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Guillaume B., que vous inspire Martin Luther King?
Okay, moi, je dirais que la combinaison de Martin Luther King devrait pas seulement commémorer par les États-Unis, mais beaucoup plus en Afrique, parce que le pasteur Martin Luther King avait lutté pour la dignité de l'homme noir pour les Africains, et non seulement pour les Américains. En principe, c'est nous les Africains qui devrons lui commémorer, parce que c'est un homme très compatible aux Africains. Il avait défendu les causes des Noirs aux États-Unis, et cela nous donne aujourd'hui la dignité et la valeur et le respect pour les Noirs qui vivent actuellement aux États-Unis. Moi, c'est un homme qui est très impressionnant. Il m'a beaucoup marqué par ses œuvres par rapport à la non-violence qu'il avait écrite. Vraiment, il m'a beaucoup marqué dans ce parcours pour la lutte de la valeur de l'homme noir.
Alors, Marilyn Sefocle, est-ce que vous venez d'entendre notre auditeur, est-ce que vous aussi vous voyez un parallèle ou est-ce que vous voyez une résonance de la lutte de Martin Luther King sur le continent africain?
Alors, je suis tout à fait, mais à 100% d'accord avec l'auditeur précédent. Martin Luther King a eu un impact sur les Noirs américains, mais cet impact s'est ressenti au-delà même des États-Unis, c'est-à-dire en Afrique également. Ici, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'Africains migrent vers les États-Unis et se sentent à l'aise aux États-Unis. C'est justement parce qu'il y a eu tout ce travail qui a été fourni par des Noirs américains, en particulier par Martin Luther King, afin de rendre la vie des Noirs est même beaucoup plus, vivable, on pourrait dire, aux États-Unis.
Alors parlons maintenant des ramifications de sa lutte sur la société actuelle, un demi-siècle après son assassinat. Qu'est-ce qui a changé pour les Noirs?
Alors, je voudrais revenir un petit peu sur la question précédente,
oui.
À savoir la relation entre l'Afrique et Martin Luther King. Au moment où Martin Luther King, lui, se battait pour les droits civiques américains, les Africains eux-mêmes obtenaient, pays par pays, leur indépendance. Et donc, les Africains qui se retrouvaient dans les années 60 sur le territoire américain, eux, ils se confrontaient au quotidien le sort des Noirs américains. Ainsi, par exemple, l'ambassadeur du Ghana en 1960 aux États-Unis, eh bien, on lui refusait l'entrée, tout ambassadeur qu'il était, on lui refusait l'entrée des restaurants UP de Georgetown à Washington. Et ça a fait la une de tous les journaux. Et l'Amérique a commencé justement à se poser des questions, à savoir comment faire face à une Afrique indépendante. Et donc, la question des droits civiques américains se posait en même temps que la question des indépendances africaines. Donc, il y a eu, si vous voulez, une sorte de constellation de ces deux de ces deux luttes qui fait que les Noirs ont avancé, l'Afrique a avancé en même temps que les Noirs américains et vice-versa. Les Noirs américains ont avancé en même temps que les Africains.
Mais alors dans ce contexte, est-ce que Martin Luther King a pris position pour ce qui se passait, sur ce qui se passait en Afrique ?
Alors, il est mort, et oui, évidemment, il était pour les indépendances africaines, ça, c'est aucun doute. Ce qui s'est passé aussi, s'est inspiré aussi de certains modèles. Par exemple, il s'est beaucoup inspiré de Mahatma Gandhi en Afrique, de la lutte pacifique. Il s'est d'ailleurs rendu en Inde, il s'est rendu au Ghana. Et quand il s'est rendu dans ces pays, il a pu justement renforcer sa lutte et la lutte des droits civiques américains et la porter à un niveau international. Et aussi attirer l'attention des médias internationaux.
Alors, maintenant, parlons de ce qui se passe aujourd'hui, puisque il y a eu des progrès, certes, mais beaucoup n'a pas encore été fait. Donc, peut-être qu'on pourrait parler des progrès. Qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour les Noirs ?
Alors, il faut déjà faire la part des deux administrations précédentes, c'est-à-dire l'administration précédente sous le président Obama et l'administration actuelle. Sous l'administration précédente, il n'était pas question de revenir sur les acquis. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une espèce de volonté qui n'est pas avoué, mais une volonté de revenir sur les acquis sociaux des Africains-Américains.
C'est-à-dire
Par exemple, nommé comme Attorney General Jeff Sessions, c'est déjà faire un pas en arrière aux yeux de la communauté africaine-américaine.
Alors on va peut-être... Oui, allez-y.
Ça c'est mon avis personnel. Oui. Je n'hésite pas à le dire. Pourquoi ? Parce que quand on nomme comme Attorney General quelqu'un qui s'est souvent opposé aux avancées des Noirs, eh bien, cela ne peut pas être de bon augure pour la communauté africaine-américaine.
Et dans la même veine, hein, on a eu des discours qui prêtaient à confusion, par exemple sur le Ku Klux Klan, où la condamnation n'était pas forcément claire.
Alors là, la litanie serait très longue, parce qu'il y a eu des discours, évidemment, de la part même du chef d'État qui présentait les personnes du Ku Klux Klan comme étant des personnes respectables. Donc il y a eu toute une campagne électorale qui a été menée pour diviser, si vous voulez, pour diviser l'Amérique. Donc il est très important de souligner cela. Comme je disais, la liste serait extrêmement longue.
On a l'impression qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'afficher des idées racistes publiquement.
Absolument. Absolument. Il est beaucoup plus facile d'afficher des racistes. Et également, il y a toute une... les Noirs sont très souvent victimes des bavures policières. Non seulement des bavures policières, mais de ce qu'on appelle le « racial profile ».
Alors justement, sur ces violences policières, puisque c'est quand même un des domaines où les inégalités entre les Noirs et les Blancs sont les plus criantes et probablement les plus choquantes, puisque c'est très visuel, c'est très choquant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces violences policières ?
Alors, vous avez évidemment des personnes de tout horizon, de tout poil, on pourrait dire, qui ont des idées racistes et qui intègrent les forces de police, justement pour pouvoir, en toute impunité, mener leur action raciste.
Alors, très souvent, les racines historiques sont mentionnées. Les observateurs disent que ce n'est vraiment pas nouveau, ce comportement de la police vis-à-vis des Noirs, et qu'il peut y avoir des racines qui datent de l'esclavage.
Oui, il y a des racines qui datent de l'esclavage. On sait que l'histoire des États-Unis a été une histoire pleine d'embûches. Aujourd'hui, quand, par exemple, à partir de l'Afrique, on regarde les États-Unis, on se dit, bon, ben tiens, mais eux, ils gagnent, par exemple, le salaire moyen, c'est des Noirs, c'est, par exemple, 30 000 $. Donc, ces chiffres-là paraissent énormes. Mais, donc, on se dit, bon, ben, tout va bien chez eux. Mais pas du tout. Il y a eu ces humiliations qui durent depuis 400 ans et qui ne finissent pas, qui n'ont pas tout à fait terminé, et que les gens, beaucoup de gens pensaient assez naïvement qu'avec la présidence du président Barack Obama, que tout serait réglé. Toutefois, le système va au-delà même d'une personne unique. Donc, il s'agit de tout un système qui a perduré pendant des années où les Noirs américains, au départ, on les avait perçus comme une caste inférieure dès le départ, et donc à travers l'esclavage. Donc, pendant l'esclavage, ils n'avaient pas du tout de droit, pas le droit de posséder de la terre, pas le droit de s'éduquer, pas le droit. Enfin, vous imaginez tous les droits qu'on peut avoir, ils ne les avaient pas. Après l'abolition de l'esclavage, il y a eu, justement au moment de l'abolition de l'esclavage, le 13e amendement. Et le 13e amendement à la Constitution, c'est un amendement qui est un amendement très fourbe, si vous voulez, parce que une des phrases de cet amendement dit que les États-Unis ne croient plus en l'esclavage, que les États-Unis, en gros, ne participent pas à l'esclavage, sauf. Et c'est de ce sauf qu'il faut se souvenir, sauf en cas où de perte de liberté due à une criminalité, due à un crime, par exemple. Donc, il a été très important pour les États américains, surtout les États du Sud, de créer des lois, ce qu'on appelle les pig laws, ou les vagrancy laws. C'était des lois qui étaient destinées justement à enfermer, à incarcérer des Noirs américains. Je vous donne un exemple de vagrancy law ou de pig law qui disait que, par exemple, si on prenait un pig, cochon, on était passible de prison à vie. Or, on sait très bien que les Noirs américains, ils n'avaient pas du tout, après l'esclavage, de quoi se nourrir. Or, les cochons étaient en liberté, et les cochons sauvages, on en trouvait partout. Et c'est de ça exactement que l'on se nourrissait, les Noirs américains. Donc, on a créé une loi, ce qu'on appelle le pig law, pour justement les incarcérer. Regardez une femme blanche en face dans les années, et cela a perduré jusque vers les années 1950, était passible de prison. Et quand on mettait ces jeunes noirs en prison, je vous donne un autre exemple de loi, par exemple quand on était noir et qu'on conduisait une voiture dans le sud jusque vers les années 50, il ne fallait pas dépasser un blanc, parce que si on dépassait un blanc, c'était passible de prison. Donc, si vous voulez, tout était prétexte à incarcérer les noirs. Donc, on a créé aux États-Unis un système carcéral qui visait précisément les habitudes des Noirs et essayait justement d'en faire un délit, de faire des délits de ces habitudes. Et donc, ce système a perduré. Et jusqu'à maintenant, on se rend compte aujourd'hui que la majorité de la population carcérale est une population noire et latino. Et cela nous montre bien, ce sont là les séquelles de ce système, qui a toujours voulu renfermer les Noirs dans un système esclavagiste.
Et finalement, ces institutions, en particulier donc la justice et la police, n'ont pas évolué, enfin ont évolué, mais pas tant que ça. En matière de
Noirs. Ont évolué, mais pas tant que ça. Alors, par exemple, aujourd'hui, le système qui s'appelait le convict leasing system, c'est-à-dire un système où on pouvait louer des condamnés. Donc c'est ce système d'ailleurs, ce système de location des condamnés qu'il est condamné étant à 99% noir, qui a justement permis l'élan de l'industrialisation des États-Unis. Par exemple, vous prenez l'exemple de la United Steel Co. Et bien, dans les années 1900-1920, la United Steel Co., qui a participé de tout l'essor des États-Unis, et bien, la United Steel Co. Employait à grande majorité, à 99%, des condamnés noirs. Ces personnes, rappelez-vous, ils avaient été condamnés simplement, par exemple, pour avoir regardé une femme blanche, pour avoir dépassé un blanc en voiture, etc. Donc, des délits qui nous font aujourd'hui vraiment sourire. Donc, ces mêmes personnes, si vous voulez, ils ont participé donc de l'essor, l'énorme essor industriel des États-Unis. Pourquoi ? Parce que ces condamnés, eh bien, on ne les payait pas et on les utilisait jusqu'à la mort.
Oui,
et donc la United Steel Co. par exemple était la compagnie au monde la plus riche grâce au travail gratis des Noirs.
Une autre forme d'esclavage donc.
Voilà, une autre forme d'esclavage.
Alors, sachant que la situation a quand même beaucoup évolué et changé, et peut-être que les choses sont plus sophistiquées aujourd'hui comparées à l'époque de Martin Luther King, est-ce que les activistes d'aujourd'hui s'inspirent de la façon dont il a mené sa lutte, ou est-ce que la dynamique est totalement différente ?
Alors, évidemment, les activistes aujourd'hui, les militants, ils s'inspirent de la lutte de Martin Luther King. Les problèmes sont peut-être légèrement différents. On a une société un peu plus sophistiquée. Mais la façon dont on essaye de réprimer, si vous voulez, l'élément africain-américain de la société est devenue en elle-même aussi un petit peu plus sophistiquée. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le conseil qui s'appelle ALEC, qui est American, enfin tout le monde connaît ALEC. ALEC, c'est un organisme qui est composé de différents PDG de très grosses sociétés américaines. Et ce conseil, donc, a une influence énorme sur les lois aux États-Unis. Et donc, ce conseil est pour une nouvelle forme de convict leasing system, une nouvelle forme d'incarcération. Pourquoi ? Parce que ça leur donne évidemment une main-d'œuvre à bon marché, une main-d'œuvre gratis à travers le système carcéral. Donc on en revient, si vous voulez, au convict leasing system qui avait été instauré dans les années 1800 et qui a perduré jusque dans les années 1950, avant les droits civiques. Donc on revient à cette espèce de système. Et c'est la raison pour laquelle, pour des broutilles, souvent, les Noirs se sont incarcérés.
Alors,
il y a cet aspect-là sur lequel les nouveaux militants essayent de lutter contre cette incarcération souvent arbitraire des Noirs. Le système aussi de redistricting, ça c'est un gros, gros morceau, c'est un gros problème. Le redistricting consiste à recréer des districts afin de diluer le vote des Noirs. Alors ça c'est un autre aspect du militantisme des nouvelles générations de Noirs.
Alors, toutes ces inégalités dont on parle aujourd'hui, elles sont bien réelles, les faits en attestent. Pourtant, beaucoup d'Américains, les Blancs notamment, n'ont pas l'air d'entendre ces revendications. Comment l'expliquer ? Pourquoi un tel fossé ?
Alors, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis aujourd'hui le « white privilege », c'est-à-dire le privilège d'être noir. C'est-à-dire que quand on est blanc, il s'agit de véritables privilèges. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas les souffrances des autres. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à la banque, on est tout de suite, on a beaucoup plus de dégâts.
Oui, je vous en prie, allez-y. Allô ? Est-ce qu'on vous a perdu, Marilyn ?
Non, je suis... oui.
Et oui. Et oui, d'accord. Excusez-moi, j'ai été...
Voilà. Donc, il s'agit... Je disais que les, le privilège, ce qu'on appelle aux États-Unis en ce moment le privilège blanc, c'est le privilège d'appartenir à un groupe qui est d'emblée le groupe qui, que l'on privilégie, qui est élu, qui est, si vous voulez, qui est, à qui, pour lequel on ne se pose pas de questions.
D'accord, mais voilà. Marilyn, ça va être la, le mot de la fin puisque l'émission est terminée. Merci beaucoup pour votre analyse. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Morgane Guiriec au micro. À bientôt.